Il est 10h sur Europe 1. Les infos, Marguerite Lefebvre, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Oui, les fruits et légumes produits en France sont plus chers cette année. Leur prix a augmenté en moyenne de 15% par rapport à l'an dernier, avec même des augmentations de 30% pendant le confinement. Oui, les produits sont plus chers, mais il faut tout de même les acheter. Appel ce matin sur Europe 1 de Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA. Elle rappelle qu'en France, la main-d'œuvre est plus chère que dans d'autres pays européens, mais qu'il faut maintenir les emplois. On ne peut pas pleurer parce qu'il y a trop de chômage et vouloir acheter des produits importés moins cher. Il faut de la cohérence et de l'achat responsable, selon Christiane Lambert. Ils avaient trouvé refuge sous des tentes le long du canal Saint-Denis à Aubervilliers, au nord de Paris. Plus de 1500 migrants ont été évacués ce matin, conduits dans des bus vers des centres d'hébergement et des gymnases. La préfecture de police de Paris évoque ce matin le risque sanitaire de ce campement en pleine épidémie de coronavirus. Les membres du gouvernement Castex vont s'installer autour de la table une dernière fois avant de partir en vacances. Dernier conseil des ministres ce matin à l'Élysée. Ce sera le premier d'ailleurs pour les 11 secrétaires d'État qui ont été nommés dimanche soir. Il sera question tout à l'heure de la décentralisation avec la présentation d'un projet de loi qui donne plus de compétences aux collectivités. Le gouvernement qui annonce par ailleurs ce matin cette aide pour le secteur du tourisme. Les mesures de chômage partiel pour les entreprises du tourisme ont déjà été prolongées jusqu'au 30 septembre. Et bien le dispositif va se poursuivre encore plus longtemps jusqu'à la fin du mois de décembre. Dans l'Aisne, le chauffeur du poids lourd impliqué dans un accident de voiture hier est toujours en garde à vue. Hier après-midi, son véhicule s'est déporté alors qu'il circulait sur la Nationale 2 au niveau de Laon. 4 enfants sont morts dans l'accident. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce chauffeur n'aurait consommé ni drogue ni alcool avant de prendre le volant. Outre-Atlantique, les États-Unis ont enregistré un nouveau record hier, près de 1600 morts du coronavirus en 24 heures. C'est un chiffre qui n'avait pas été atteint depuis 2 mois et demi, signe que le virus est bel et bien en train de gagner de nouveau du terrain. Dans la lutte contre l'épidémie, on apprend que le laboratoire français Sanofi, allié dans la course au vaccin avec un labo britannique, ce duo a signé un accord avec Londres pour fournir 60 millions de doses de vaccins au Royaume-Uni dès lors qu'il sera mis au point. La bourse de Paris a ouvert tout à l'heure en hausse, plus 0,40%. Le CAC se rapproche petit à petit de la barre des 5000 points. Enfin, en cyclisme, ne vous attendez pas à revoir Julian Alaphilippe tout de jaune vêtu au mois de septembre. La nouvelle coqueluche du vélo français affirme qu'il ne visera pas le classement général du prochain Tour de France. C'est en tout cas ce qu'il dit à nos confrères de l'équipe. Cette année, il ne veut pas s'épuiser avant les championnats du monde qui sont son principal objectif de la saison. 10h03 sur Europe 1, Pascal Clark est de retour derrière son micro.
Bah oui, quand vous voulez.
Je fais un effort
aujourd'hui. Ah ouais, non, ça va mieux, ouais. C'est plus cher ou c'est le même
je
prix?
Je sais pas, je vais voir, je vais négocier.
Ok, merci beaucoup Marguerite Lefebvre. On vous attend à 11h sur Europe 1 pour les prochaines infos.
Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour ou bien rebonjour, quand le vous... C'est un bon début. Quand vous le voyez à la télé, encore fallait-il le reconnaître. Pour dynamiter les plateaux, il s'est glissé dans la peau de personnages odieux, obsédés, désaxés. Jonathan Lambert peaufine son prochain one-man show et joue ce soir sur France 2 dans le préquel de la série Fête des Gosses. Jonathan Lambert est l'invité ce matin de Culture Média, mais il ne sera pas le seul Lambert dans la place. Pas du tout. Les indispensables chroniques YouTube du mercredi. Ce matin, on voyage sans masque avec des vidéos, étranges escales. Et ce sera la chronique de Thibault Lambert. Et puis, première page, nous découvrons ce matin celle du livre de Dominique Maison, « Avant les diamants », à paraître fin août aux éditions La Martinière. Où que vous soyez, belle matinée à vous. Vous écoutez Europe 1 et le journal de la culture va commencer. Bonjour Damien Caprespine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui.
Des films à Venise, un faiseur de tubes, un chanteur en colère, des bourgeois surprenants et une balade tout en douceur.
Et on commence avec la Mostra de Venise qui a dévoilé hier sa sélection.
Oui, et cette année Pascal, les cinéphiles italiens ont intérêt à aimer le cinéma d'auteur car fini les blockbusters type Joker. Les studios hollywoodiens ont en effet déserté la Mostra en attendant des jours meilleurs. Le festival va donc mettre en avant une production majoritairement italienne mais aussi quelques films internationaux très intrigants. Il y aura par exemple Nicole Garcia avec son projet Lisa Redler, une histoire emmenée par Pierre Niney, Stacy Martin ou encore Benoît Magimel. On découvrira aussi les nouveaux films de Quentin Dupieux, de l'israélien Amos Gitai, du japonais Kiyoshi Kurosawa. Un documentaire consacré à Greta Thunberg sera projeté hors compétition. Et puis on scrutera particulièrement le premier film d'une petite nouvelle dans la famille Coppola. Elle s'appelle Gia, accessoirement petite fille de Francis Ford et nièce de Sofia.
Mais Sofa, c'est de bien Sofa. Aussi. Lost in Sofa, voyez. Voilà. Ouais.
La Mostra se déroulera du 2 au 12 septembre prochain. Cate Blanchett sera la présidente du jury. Enfin, on verra si tout va bien.
Dia Sofa. Le producteur anglais Calvin Harris est de retour.
Calvin Harris, c'est ce qu'on appelle un hitmaker dans le jargon de la musique. C'est un faiseur de tubes imparable. C'est simple, tout ce qu'il touche se transforme en or, voire en disque de platine ou de diamant. C'est lui qui a signé à peu près tous les tubes de l'été depuis 8 ans. Alors il y en a tellement, je ne sais même pas lequel choisir. Allez, je vous propose How Deep Is Your Love. How deep is your love? Vous avez dansé dessus, Pascal ?
Une reprise ?
Mais non, enfin, remixé par Calvin Harris.
Ah oui, c'est remixé, d'accord.
Ok, mais remixé par Calvin Harris.
Moi, je suis vintage, hein, vous savez, je préfère l'original.
Bon, alors, pour cet été 2020, Calvin Harris espère vous faire danser avec ce nouveau titre, Live Without Your Love. Il s'est associé pour cela au chanteur Steve Lacy. On a l'impression qu'ensemble, ils ont embarqué dans une machine à remonter le temps. Ça sonne très, très, très années 90. On a l'impression de revenir au début de la techno, dans des clubs enfumés, dans des rêves parties. On va écouter tout de suite. I can't live without your love.
I can't live without your love. Il est 10h06 sur Europe 1, nous sommes en after, grâce à Damien Caurespine.
Alors, ça fait du bien.
Ça fait du bien. Attendez, on va recaler, là, vous allez voir tout de suite. Aux États-Unis, le chanteur Neil Young est en colère.
En colère contre Donald Trump, et il a même menacé hier de le poursuivre en justice si ça continuait comme ça. Alors, la raison de ce coup de chaud, le déploiement des forces de l'ordre lors de manifestations antiracistes à Portland, une décision du président Trump qui a révulsé l'icône du Flower Power. Il faut dire que la guerre entre le chef d'État et le chanteur ne date pas d'hier. Neil Young n'avait pas du tout apprécié que les équipes trumpiennes utilisent un de ses titres, celui-là. Ce titre, Rocking in the Free World, avait déjà été joué lors d'un meeting de Trump en 2016. Le chanteur avait officiellement demandé à l'époque que sa chanson soit retirée de la playlist présidentielle. Mais peine perdue, Neil Young avait découvert début juillet que la chanson était encore en boucle lors d'un déplacement du président au Mont Rushmore. Alors le chanteur envisage donc désormais de porter l'affaire devant les tribunaux et de faire valoir son droit moral. Dans une tribune publiée sur son site internet en février dernier, Neil Young écrivait déjà que le président Trump était selon lui une honte pour son pays. Ambiance.
Ça se dit shame.
Shame.
Shame on you. Le festival Paris l'été en toute liberté ouvre ses portes ce soir.
Oui, il y a une soirée d'ouverture en beauté avec une carte blanche donnée à François Alu. François Alu, il est premier danseur à l'Opéra de Paris. C'est la nouvelle star de Garnier et de Bastille. Et pour cette soirée exceptionnelle, François Alu a convié des amis danseurs, une circassienne, un DJ. Et puis, il a décidé de se produire en solo sur une chanson de Jacques Brel. Les Bourgeois, une sublime chanson, mais un titre un peu surprenant pour un danseur classique. Alors, j'ai appelé François Alu et je lui ai demandé, mais pourquoi ce choix?
Moi, j'ai une classe sociale moyenne. Et en fait, après avoir beaucoup travaillé, fait l'école de danse, et puis avoir eu la chance d'avoir cette carrière-là, je me suis embourgeoisé, je trouve, beaucoup par rapport à là où je venais. Et je me suis dit, c'est bien de prendre une chanson qui se fout de la gueule des bourgeois, parce que plus jeune, j'étais assez critique vis-à-vis de cette classe sociale. Et c'est bien de te rappeler de là où tu viens. Parce qu'on a tendance à vite oublier ses racines et donc ça, c'est un petit clin d'œil au petit moi, au petit François.
Alors si vous souhaitez découvrir le solo du petit François, rendez-vous ce soir à 20h au lycée Jacques Decour. C'est au 12 avenue Trudaine dans le 9e arrondissement à Paris. Métro en vert aussi, si je peux faire la RATP. Si
oui, alors tout ça c'est pour les Parisiens évidemment, pour tous ceux qui sont actuellement à Paris, pour être aux premières loges de l'Alu. On termine en douceur avec une balade signée Hugo Bariol.
Oui, il a d'abord chanté dans le métro avant de se faire repérer par Alain Chamfort qui lui a confié les premières parties de sa tournée. Hugo Bariol, il est originaire de Saint-Étienne, comme Martin Cangelosi, mais ça c'est une autre histoire. Il a sorti un premier disque en 2019 et aujourd'hui il revient avec un titre très doux, très sensible. La chanson s'appelle Stay et vous allez voir, c'est vraiment très apaisant.
On l'a la séance Rondor ou comment fait-on?
C'est le grand écart entre Calvin Harris
et... Voilà, on est... voilà, il s'appelle Hugo Bariol et il tentait de chanter à l'instant Stay. Hey. Damien Caprespine, merci. Damien, c'est je vous laisse lancer le disque qui suit. Hein.
Le disque
vous avez 15 secondes.
Bah, le disque qui suit, c'est peut-être une des plus belles chansons du moment. Je crois que c'est Yel.
Voilà,
ne me trompe pas, je t'aime encore. Juste pour info... Non, bon ok, juste pour info, c'est une chanson où il faut lire entre les lignes. C'est un peu une lettre à France,
Yel.
Version Polnareff 2020.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Il en a incarné bien des personnages déjantés, sans limite, dégueulasses, répugnants, obsédés, ravagés par leur toc sur les plateaux de télévision, de la grosse émission à quotidien, en passant par les grandes heures dont n'est pas couché la folie pour faire rire. On l'a vu ici ou là au cinéma, on le voit dans des fictions télé, comme ce soir sur France 2, on va en parler tout à l'heure, et aussi seul en scène. On pensait... jusque-là qu'il s'appelait Jonathan Lambert. Pas du tout. Bonjour Rodolphe Jonathan Lambert.
Voilà, c'est exact.
C'est ça.
Ouais, c'est exactement ça. Pour l'état civil en tous les cas.
Pour l'état civil, c'est votre vrai nom.
C'est-à-dire que mes parents n'ont peut-être pas réussi à s'entendre sur le choix du prénom. Ma mère voulait Jonathan, mon père Rodolphe.
Sérieux?
Ouais. Et comme il y a une grande injustice, hein, c'est que la plupart du temps, bah, c'est le papa qui va déclarer, puisque la maman est encore à l'hôpital. Il est revenu, un sourire au coin, il a dit « Écoute, j'ai pas résisté. Tu voulais Jonathan, moi je voulais Rodolphe, donc j'ai mis les deux. »
Avec donc un trait d'union.
Un trait d'union, ouais.
Ça aurait pu être Jonathan Rodolphe.
Ça aurait pu, oui, bah voilà, c'est le choix du papa dans cet ordre-là.
Donc ils n'auraient jamais réussi à s'entendre sur le choix de votre prénom.
Oh, je crois que c'est assez courant, hein, vous savez, les batailles autour du prénom d'un enfant.
Oui, mais généralement, il y a deal. D'ailleurs. Oui, bien sûr.
En plus. Ouais. Mais oui, il y a deal, mais voilà, je ne sais pas. J'étais pas là. Enfin, je ne m'en souviens pas en tous les cas. Mais voilà, ils sont tombés d'accord là-dessus. Mais après, l'usage à la maison, hein, ça a toujours été Jonathan, puisque en fait, mon père, ça s'appelait Rodolphe également.
Voilà,
d'accord. Donc c'est une sorte de transmission et voilà, l'histoire elle est là. Quand j'ai perdu mon père, il y a un peu plus de 2 ans, à la manière de, voilà, le roi est mort, vive le roi, je me suis dit, allez, je me réapproprie ce prénom qui est finalement mon vrai prénom et va pour Rodolphe Jonathan. Ce qui fait que depuis quelques temps, on peut voir sur les génériques ou sur les affiches, non pas Jonathan Lambert, mais R Jonathan Lambert.
Mais sur Twitter aussi, j'ai vu ça tout à l'heure, le R revient.
Ah, le R revient, mais le R est terriblement à la mode cette année.
Au passage, je crois que vous avez une sœur. Est-ce qu'elle a eu le droit à pareille hésitation?
Non. C'est vissé. Elle a qu'un prénom, c'est Stéphanie et je l'embrasse.
Oui, d'accord. Tel que vous venez de raconter l'histoire, soit c'était parti pour une ou deux décennies de psychanalyse.
Ouais, oh, ça ne m'a pas plus traumatisé que ça.
Un prénom comme ça, aux oubliettes, et qui ressurgit, il y a quelque chose.
Ah, c'est assez joli, cela dit, Rodolphe. Non, ah oui, ça se lit sur vos visages. Non, il n'y a pas besoin, les mots ne viennent pas.
Visiblement. Rodolphe, pourquoi pas
Ah oui, Rodolphe Jonathan. Non, mais ensemble. Et peut-être que Jean-Luc, qui a l'air très commun aujourd'hui, c'est parti de cette histoire-là. Peut-être qu'un papa voulait appeler son fils Jean, une maman Luc. Et puis,
allez voilà, savoir.
Aujourd'hui, ça paraît tout à fait courant, mais à l'époque, c'était peut-être voilà, un défi.
Alors, Rodolphe, on se dit, elle est bizarre cette interview. Rodolphe, c'est le titre de votre, je sais pas comment dire.
Du coup, oui, de mon seul en scène. Absolument, seul
ouais,
en scène.
Seul en scène, que vous êtes censé jouer bientôt. On va revenir sur...
Censé, moi j'y crois. Hein.
Oui, enfin bon, oui. On peut pas non plus promettre.
Non, bien sûr. Hein. Je le joue déjà chez moi, je m'entraîne.
Ah, c'est vrai?
Bah oui. Non, j'ai un grand plaisir d'ailleurs à répéter seul chez moi. Parce que c'est le quatrième seul en scène. Et la particularité, c'est que c'est la première fois, pour être honnête, que je parle de moi. Et j'y voyais pas une impudeur, mais j'avais beaucoup de mal à assumer de dire des choses véridiques sur moi.
Pour de vrai?
Oui, voilà. Sur les 3 premiers spectacles, qui du reste n'ont rien à voir les uns et les autres, mais c'était soit des personnages, soit... Enfin, voilà, il y avait... C'était totalement fictionné, même si je parlais de moi, tout était inventé. Là, je vais vraiment... c'est assez étonnant, c'est venu...
Donc Rodolphe, hein, il s'appelle Rodolphe.
Rodolphe, voilà, c'est
votre
le titre du spectacle.
Et chez Non Manquant, peut-être non
c'est, je ne sais pas. C'est, vous savez, on dit souvent qu'il voilà, y a un âge où on se sent mûr pour... c'est l'âge où on commence à regarder derrière, peut-être. C'est ce que je dis en préambule. Voilà, c'est peut-être mon âge qui veut ça.
47, pour ceux qui veulent savoir.
Voilà, 47,
ah ouais, il a 47 ans quand même, hein, Jonathan.
Ça équivaut à 35 ans pour une tortue de Floride, 9 mois pour un hamster et 3 semaines pour un fromage de chèvre. Voilà, je donne toutes les équivalences.
Ouais, en même temps,
On peut pas savoir ce qu'aurait été votre vie si vous aviez été un fromage de chèvre.
Ah, j'aurais été sur un plateau, comme aujourd'hui encore.
Un homme à la moitié du chemin, hein, c'est ça. Et l'histoire d'un produit en décomposition. Et c'est un...
En état de décomposition.
En état de décomposition, ouais. C'est un spectacle censé faire rire ou
vous
lancer dans la tragédie.
En pleine période. Non, mais c'est marrant, je trouve. C'est pas une auto-analyse, mais je joue avec ça, avec cet effet de voilà quand on arrive à mi-parcours et qu'on commence à se poser des questions, j'atteins une certaine forme de sagesse. Finalement, donc je transmets cette sagesse.
Vous êtes censé commencer quand ?
Le 1er septembre, à Nantes.
Voilà. Oui. Et vous êtes prêt, le cas échéant, à jouer devant des gens masqués ?
Ah oui, ah, très honnêtement.
Aucun problème.
Ah non, moi, c'est pas du tout quelque chose qui... on compte sur le rire sonore, donc ça s'entendra derrière
ça
le masque.
Ça étouffe un peu, j'espère, quand même.
Ça étouffe un peu, mais...
Ah, je suis pas si drôle, finalement.
C'est déjà bien.
En attendant, ça c'est sûr, vous êtes Clément pour la dernière fois ce soir sur France 2, le Clément de Fête des Gosses, mais dans une version préquelle. J'installe la traduction simultanée et puis on en reparle tout de suite. Jonathan Robert est avec nous.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
C'était en janvier dernier, c'était il y a une éternité, et France 2 diffusait sa série familiale chorale, Fête des Gosses. Trois familles réunies par l'amitié de leurs enfants. Vous, Jonathan Lambert, vous jouiez, j'écris Rodolphe, mais non, vous jouiez Clément. Clément,
j'adore le côté, l'emploi du passé.
Ouais. Enfin, bah oui, c'est fini.
Oui, mais alors au-delà d'être un préquel, parce que si je ne m'abuse, le préquel est quand même écrit après, mais parle d'avant. Alors que
oui,
là,
c'est ça. Alors, vous dites préquel déjà.
Ouais,
non, je ne sais pas. Moi, je le dis pas souvent. Donc
non, moi non plus. On va dire
préquel.
Préquel ou l'origine.
Oui.
Peut-être.
Donc c'est découvrir une fois qu'on a déjà vu une série ce qui s'est passé avant.
Voilà.
C'est ça qui se passe ce soir sur France 2.
Oui, sauf que là ça avait été tourné avant la série. C'était Mais c'était une façon effectivement de poser tous les personnages parce que c'est choral. Hein. Alors il y a notamment Fred Testo, Amel Chabi, Linda Nfam. Je vais en oublier. Donc
ils vont vous en vouloir.
Donc ils vont en vouloir. Mmh. Philippe Lefebvre, Constance Dolé, Maurice Chaouching, Eva Darlan. Bon, bref, je suis désolé si j'en oublie. Mais ce qui...
Et Clément, alors, vous, Clément.
Et Clément, mon personnage. Voilà.
Non, mais résumé en fait, de ce personnage.
Bah, le résumé de ce personnage, c'est un père à la fois très actuel, très moderne, c'est-à-dire qui se fait un peu bouffer par son... Enfin, qui se fait bouffer, qui se fait toute une montagne sur l'éducation de sa fille en voulant être très, très moderne. Et voilà, c'est une façon de faire des portraits de différentes familles. Avec le dénominateur commun, ce sont les enfants. Et c'est vrai que cet épisode pilote est plus axé sur les enfants.
Ah, c'était un pilote qu'on a refourgué alors.
Un petit peu, oui, il faut dire.
Ouais. C'est extraordinaire. Et puis on l'habille, on dit préquel.
Et quand le pilote est réussi, ce serait dommage de s'en priver.
En tout cas, c'est le préquel. Il s'appelle J'ai 10 ans et il passe ce soir sur France 2, bande annonce.
Oui.
Allez. Faut pas être en retard pour ton premier jour d'école.
Allez, les enfants, entrez.
Non, tu peux pas te mettre là. Ici, c'est la place, le meilleur de la classe. Toute une année dans la même classe. Eh, mais je vais pas venir, hein.
Alors, microbe, t'es encore en mode SDF cette semaine?
Alors, moi, je peux savoir ce que tu fous en caleçon?
Tu pars en bip, hein, dans cette maison.
Qu'est-ce que tu proposes, toi?
Un psy.
Ouais.
J'ai pensé à un chaman ou à un exercice, mais j'ai pas trouvé.
Quoi? Retire ce que t'as dit.
Non.
Voilà,
c'est axé sur les enfants quand même. On entend, on voit que.
C'est pas le cas ?
Si, bien sûr. Ouais. Oui, si, l'épisode tourne autour des enfants. Ouais.
Et alors, dans ce préquel tourné finalement avant tout le reste, on revient à l'origine de votre personnage Clément et du coup, est-ce qu'on peut constater qu'il a beaucoup évolué ? Je ne sais pas si la question est claire.
Si,
ah,
non. Bah, qu'il a évolué, ou plutôt qu'il était fidèle à ce qu'on a connu auparavant.
Oui,
qui a
dans
été tourné après.
Voilà, bien sûr.
oui, c'est le côté rétro-futuriste. Mais c'est en ça que moi je trouve ça assez brillant de la part des auteurs, des autrices, Diane Clavier et Samantha Mazéas, c'est de poser, de faire une bible, hein, ce qu'on appelle, même s'il y a un côté un peu marketing, mais en télé, en série en tous les cas, je trouve que c'est assez fort comme ça de poser des personnages et d'avoir tout de suite une identité, une clairvoyance sur comment ils peuvent agir dans telle situation. Et nous, on l'a ressenti notamment quand on a tourné la série, parce que quand vous interprétez un personnage sur plusieurs épisodes, donc c'est quand même plusieurs jours de tournage, même qui s'étale sur plusieurs mois, vous pouvez faire des suggestions auprès des auteurs pour dire, tiens, voilà, j'imagine que Clément y réagirait comme ci ou comme ça dans cette situation-là, parce que l'écriture se poursuivait au fil du tournage. Mm-hmm. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant, mm-hmm. c'est quelque chose qui n'existe pas au cinéma.
Ouais, vu de vous, vous avez le temps de vous installer.
Exactement.
Et effectivement, de faire mûrir votre personnage. Est-ce que quand on joue comme ça un personnage de série, ça fait appel au même ressort qu'un comédien dans un film ? Ou ça se joue ailleurs ?
Oui, bah, vous savez, moi je m'en remets surtout au metteur en scène, au réalisateur Philippe Lefebvre en l'occurrence, et je lui fais entièrement confiance. Moi j'adore être dirigé. Comme je viens plutôt de la scène ou des sketchs à la télé, hein, c'est comme ça qu'on a pu me connaître, c'est moi qui écris, donc c'est moi qui me mets en scène. Et parfois ça a ses limites, parce que autant il y a des trucs qu'on peut faire, mais il y a des choses qui vous échappent. C'est vachement important le regard de quelqu'un d'autre, donc j'adore.
Et puis ça crée peut-être une rigueur supplémentaire.
Aussi. Absolument. Bien sûr, bah oui, parce que sinon je n'en ai pas moi-même.
Non, c'est pas ce que je veux dire, mais bon.
Non, mais bien sûr. Non, mais c'est super important d'avoir un regard extérieur. Et à la fois, c'est troublant parce que parfois, faut avoir pleinement confiance. Voilà. Mmh.
Et, et ça va sur ce terrain-là.
Ouais. Ouais. Ouais, ça va.
Jonathan Lambert, on va revenir sur cette folie qui sommeille souvent en vous et qui ne demande qu'à sortir. Merci d'être dans Culture Média ce matin. On revient avec ces personnages déjantés. On y revient systématiquement, mais c'est pour la bonne cause.
Ah, mais ils sont là, ils me plaisent. Hein. Ils sont enfermés dans la cave, mais je peux les ressortir.
Non, pas tous en même temps, s'il vous plaît, tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Pascal Clark.
Jonathan Lambert est avec nous, il y a Rodolphe sur scène, très bientôt on espère, il y a le préquel de ce soir sur France 2, j'ai 10 ans. Et puis il y a votre parcours, Jonathan, comment passe-t-on de journaliste pour le magazine exclusif de TF1 produit par Arthur à chroniqueur délirant chargé de réveiller les talk-shows à la télé?
Alors, journaliste, déjà, c'est un bien grand mot.
Vous diriez quoi?
Je bidouillais des reportages. Non, mais je couvrais...
Mais vous êtes cherché, ça veut dire?
Oui. Non, écoutez, moi, j'ai suivi un parcours de... Enfin, j'ai pris des cours de comédie. Je rêvais, évidemment, de faire ce que je fais aujourd'hui, donc c'est une chance. Mais je savais que pour y arriver, on n'allait pas m'appeler en sortant soit du cours Florent, soit du conservatoire, en me disant, on a déjà un rôle pour vous au théâtre ou quoi. Donc, quand j'ai eu une opportunité de trouver du boulot, en l'occurrence, c'était chez Casse Productions, donc chez Arthur et Stéphane Courby, et je les en remercie parce que j'ai grandi avec cette boîte et j'ai appris énormément de choses. Et j'étais effectivement à la fois un peu journaliste, reporter, mais j'étais chargé de coordination, j'étais auteur, j'ai vraiment appris plein de choses.
Quand on sort du cours Florent ou du conservatoire, vous auriez pu craindre de vous cramer. Ça crame vite la télé quand même, non ?
Oui, mais vous savez que même avant ça, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Coff à la télé.
Ah oui, bien sûr.
Donc je savais que, enfin, je dirais pas que j'étais infligé, mais l'histoire d'être cramé, je savais que c'était compliqué. Il y a un moment donné aussi, faire, c'est plus important que d'attendre. Moi, je suis plutôt dans cette idée-là. Donc parfois, on vous dit, il faut faire attention parce que ça, machin. Je me poserai cette question-là plus tard. Mmh. Voilà. J'adore l'idée de pouvoir bosser et d'apprendre à chaque fois, et dans tous les projets que j'ai pu faire, et que ce soit les petits ou les grands, j'ai toujours trouvé un intérêt à le faire.
Le déclic quand même, ça a été la grosse émission sur la chaîne Comédie, dans le groupe Canal Plus d'avant. C'est là que...
C'est là où tout d'un coup, je mêlais les deux. C'est-à-dire que j'apprenais, mais je m'éclatais. Donc c'était assez génial. C'était la télé que j'avais rêvé de faire. Et c'est marrant parce qu'effectivement, je bossais chez Casse Productions, donc encore une fois chez Arthur et Stéphane Courby. Et les locaux voisins, c'était la Comédie, la chaîne donc de Farrugia. Et je les voyais s'éclater dans la cour, faire des sketchs, tourner des trucs avec 3 francs 6 sous. Et moi, je regardais ça voilà, un peu la bave aux lèvres en me disant ah là, c'est la télé que je veux faire. Et ça, je dois à Stéphane Courbet parce que gentiment, il a appelé Dominique Farrugia. Il a dit écoute, j'ai un type qui rêve de travailler chez toi, si au moins tu peux le rencontrer. Et voilà, je suis rentré comme ça.
Mm-hmm. Depuis, Jonathan Lambert, vous n'avez cessé d'apparaître ici ou là, avec en point d'orgue probablement vos apparitions dans On n'est pas couché de
Laurent
Ruquier.
Oui, c'est ce qui
m'a
fait connaître auprès du grand public, qui m'a donné beaucoup de visibilité.
Mm-hmm. C'est là où vous êtes allé le plus loin ou pas?
Non, pas nécessairement. Puis vous savez, j'ai jamais cherché à aller loin. Enfin, je pense pas être non plus être dans un humour provoque, segmentant ou scandaleux.
Non, mais loin, ça veut pas dire ça.
Oui, non, mais je veux dire, voilà. Non, mais je sais, j'y voyais pas de. Mais Non, j'ai toujours eu une certaine liberté dans ce que j'écris. Après, je pense qu'il faut être un peu. Intelligent, c'est prétentieux, mais voilà, c'est facile de se donner des limites, c'est le bon sens, quoi, en fait, tout simplement. Et moi, j'ai jamais voulu être dans la provocation, et voilà, j'assume tout à fait l'humour un peu régressif, un peu, le mot est atroce, mais potache, voilà, ça me va très très bien, et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça.
Alors, on n'a pas résisté à l'idée de réécouter un extrait, mais évidemment, on a choisi les choses les moins visuelles.
Voilà.
Et on est tombé sur la prof de Nana Mouskouri, vous vous souvenez?
Ah oui, oui, oui.
Son nom m'échappe, là tout de suite, je ne l'ai pas noté.
C'était Madame Kampers.
Vous croyez?
Ah, j'en suis certain.
Vaxiliakis?
Vaxiliakis, non? Madame Vaxiliakis, oui, oui, c'est ça.
Bah, on l'écoute en tout cas.
Ouais.
Vous nous avez dit par courrier que vous aviez été professeur au même conservatoire que Nana Mouskouri.
Voilà, c'est ça. Mais je suis où, là?
Vous êtes sur le plateau, vous n'en êtes pas couché.
Oui. Voilà. Et vous êtes qui?
Moi, je suis Laurent Ruquier, l'animateur de l'émission.
Ah oui, oh, je ne l'aime pas, lui. Pourquoi vous parlez de lui? Il va venir?
Non, c'est tout. Vous êtes venu pour parler des souvenirs que vous avez avec Nana Mouskouri.
Oui, mais pourquoi elle est là?
Oui, elle est en face de vous.
Ah, ben pourquoi vous ne me le dites pas? Ah, ben oui, bien sûr. Ouais. J'étais très contente d'acheter ce duo que tu as fait avec Youssou N'Dour, Seven Seconds. Ça, j'ai trouvé ça formidable. C'était une très belle chanson.
Je crois que vous confondez avec Néné Chéri.
Oui. Qui ça?
Néné Chéri.
Ah bon? Mais alors, qui est cette dame?
Voilà, bon. Faire rire, c'est quand même super jouissif, même si, non?
Ah ouais, ouais. Non, mais je me souviens en particulier de ce personnage, parce que ça avait très très bien marché, que Nana Mouskouri était dans une sorte de confusion, où elle se demandait ce qui... Parce que c'était le début de l'émission, donc la séquence n'était pas encore vraiment installée. Il y a eu parfois des micro-doutes qui ont plané pendant les premières secondes. Et je me souviens d'Arnaud Lemort, notamment, qui co-écrivait avec moi, qui riait tellement en régie qu'à un moment, son rire, on l'entend sur le plateau. Et Laurent lui dit « Ah, ta gueule, Arnaud !»
Tous ces personnages, dont certains étaient comment dire, assez atteint psychiatriquement quand même. Est-ce que vous avez eu un souci de les rendre attachants ou c'était pas du tout votre problème?
Ah si, j'aime bien l'idée de me faire pas l'avocat du diable, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'aller chercher ce qu'on appelle les monstres quotidiens, mais il y a toujours des explications ou un angle pour avoir un peu d'empathie.
Mm-hmm.
Et puis c'était un petit peu le postulat de cette séquence, c'était retrouver une connaissance ou un ancien copain de l'invité, et voilà, c'était de dire bah, toi tu es devenu l'artiste que l'on connaît et moi je suis un petit peu le baltringue qu'on connaît pas.
Vous avez un préféré dans tous ces personnages?
Oui, c'est vrai que celui de Nana Mouskouri, là, entendu, ça m'a fait plaisir.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Pascal Clark.
Et aujourd'hui, escale sur YouTube, Jonathan Lambert, je vous présente Thibault Lambert.
Bonjour. Ah.
Eh ouais, un.
Il y en a beaucoup
de Lambert, mais là, voilà, deux Lambert dans un studio. Bonjour Thibault.
Bonjour Pascal, bonjour papa et bonjour à tous.
Bah ouais.
Fallait pas le dire.
Vous nous emmenez faire des balades pas comme les autres.
Oui, grâce aux étranges escales, une série de 10 vidéos que vous pouvez retrouver sur la chaîne Axolot. Alors ça s'écrit A-X-O-L-O-T, Axolot. Son créateur, Patrick Beau, auteur et vidéaste, nous emmène ici faire un tour insolite des villes les plus touristiques, New York, Londres ou encore Rome, à travers des détails, des architectures ou des lieux étonnants mais souvent ignorés ou qui passent totalement inaperçus. Exemple avec cette maison a priori banale à San Francisco.
Celle-ci se trouve dans une petite ruelle et elle abrite une curiosité si discrète que j'ai dû passer devant plusieurs fois avant de la trouver. Vous la voyez? C'est un simple Judas posé contre la paroi de l'escalier. Mais quand on jette un œil dedans, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un minuscule cinéma pour une personne. 24 heures sur 24, on peut y voir une sélection de courts-métrages expérimentaux et le programme du moment est affiché sur une petite pancarte à droite de l'œilleton.
Alors, aucune des choses qui y sont montrées ne se ressemble. Ça va de la petite oreille sculptée sur un mur londonien au plus bel espace de coworking du monde, en passant par des musées farfelus ou bien des bâtiments très imposant. Dans l'étrange escale à Berlin, on pénètre dans l'un des 5 plus grands bâtiments au monde, à quelques kilomètres de la capitale. Il renferme une île tropicale artificielle, rien que ça. On se croirait dans le Truman Show, c'est tellement grand qu'une montgolfière vole à l'intérieur.
Ah oui, en effet. C'est grâce aux dons des internautes, Thibaut, que ce projet a pu se poursuivre. Les 7 dernières vidéos ont été financées par plus de 3500 donateurs.
Oui, soit 130 000 euros récoltés au total. C'était il y a 2 ans. En fait, il avait déjà fait 3 escales qui avaient rencontré un petit succès, d'où cet afflux de dons. De quoi partir en tour du monde avec une petite équipe de tournage. Et ce qu'on peut dire, c'est que les moyens se voient à l'image. Les plans sont magnifiques. La caméra survole les villes comme elle nous plonge littéralement dans ces univers si particuliers. L'autre tour de force de cette série, c'est de réussir à étonner même les connaisseurs de ces lieux. J'ai été bluffé, par exemple, de découvrir encore des choses insolites sur Paris. Et dans ce cas, m'a dit Patrick Beau, la mission est accomplie.
Je suis toujours très très heureux quand j'ai des retours de type « je vis dans cette ville depuis 10 ans, depuis 20 ans, et j'étais pas au courant qu'à quelques rues de chez moi, il y avait ça ». Ben là, en plus, pour Paris, c'était un cas particulier. Comme j'avais l'opportunité de faire intervenir des amis, ça a été l'occasion de leur demander à eux s'il y avait des trucs méconnus, par exemple dans leur quartier, qui leur semblaient intéressants.
Patrick, mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, moi je suis en train de faire mes incantations sataniques, là.
D'accord.
Parce qu'on est un passe-Satan, je sais pas si t'as vu. En 1907, c'était une voie privée.
D'accord.
Dans laquelle vivait un humoriste, et comme on n'est pas loin du passage Dieu, il s'est dit « je vais appeler ma voie privée l'impasse Satan ». Et en 1991, quand c'est devenu une voie publique, ils ont gardé le nom impasse Satan, et du coup c'est l'impasse Satan maintenant de Paris, quoi.
Vous le saviez, vous, qu'il y avait une impasse Satan dans le 20e arrondissement de Paris? Bon, bah voilà, je vous conseille.
Non, du tout.
Ouais. Un humoriste en plus.
Bah ouais. Et quel humoriste? On ne sait pas. C'était il y a longtemps.
Ouais. On ne sait pas. On va rechercher. Donc, je vous conseille aussi, par exemple, la crypte où repose Louis Pasteur, au cœur même du fameux institut. Je ne connaissais pas. Recouvert d'or, du sol au plafond avec de la mosaïque byzantine, c'est totalement dément.
Qu'y a-t-il de plus marquant dans cette série?
Eh bien, les images qui nous restent en tête, ce sont souvent les endroits les plus dérangeants. La vidéo sur Prague en regorge, c'est d'ailleurs l'une des escales les plus marquantes de Patrick Beau. Il s'est même écarté de la capitale tchèque pour visiter une église abandonnée, absolument glauquissime. Écoutez.
Et cette fois, ce n'est pas tant le bâtiment lui-même qui nous intéresse, mais plutôt ses étranges occupants. Non, vous ne rêvez pas, cet édifice perdu au milieu des bois est rempli de fantômes. 2014, un étudiant en art nommé Jakub Adrava proposait une curieuse idée pour lever des fonds. Sculpter des fantômes et les installer dans l'église vide. Aujourd'hui, les 32 fantômes continuent à prendre la poussière dans le silence. On ne peut pas nier que leur présence est aussi fascinante qu'inquiétante. Et je n'avais jamais ressenti une telle atmosphère dans un lieu.
C'est complètement glaçant, je vous invite à aller voir cette vidéo. L'escale à Montréal, ultime vidéo de cette campagne, a été mise en ligne il y a quelques jours. Mais ce n'est pas fini, Patrick Beau réfléchit à une nouvelle série d'escales, plutôt en France cette fois-ci. En attendant, le livre qui compile toutes ces curiosités à travers le monde va paraître en octobre chez Dunod.
Thibault Lambert en vadrouille tous les mercredis sur YouTube dans Culture Média. Jonathan Lambert. Je suis entourné par les Lambert. Je suis cerné par les Lambert. Vous êtes en manque de voyage, vous? Ça vous manque de ne pas pouvoir voler
Non, honnêtement, je suis un peu. C'est quoi, Tartarin Tarascon qui était très. Qui restait. Non, je suis très très bien à Paris. J'adore Paris. Et puis j'adore voyager en France d'une manière générale. Donc ça
vous gêne pas?
Non. Non, non, honnêtement, non. Après, il y a des villes que j'adore. On parlait de Montréal, j'y étais l'année dernière. C'est une ville que je chéris. Prague aussi. Mais voilà, je peux tout. Si on me disait demain, c'est fini, tu ne voyageras plus jamais de ta vie en dehors de la France, c'est pas quelque chose qui m'empêcherait de respirer.
Est-ce que vous avez un indispensable à nous proposer? C'est-à-dire quelque chose, je sais pas, un livre, un disque, un film, ce que vous voulez, une recette de cuisine que vous aimez.
Récemment, alors je vais être dans le préquel de ce que je vais faire, parce que ce soir, je vais voir l'expo Christo au centre Beaubourg. Et je sais qu'en ce moment, c'est, paraît-il, formidable de visiter des musées, puisqu'on on a un peu le musée pour soi. Donc voilà, je vous engage, comme c'est un artiste que j'aime. Et puis
alors, c'est
de Paris.
Christo et Jeanne-Claude,
voilà,
vous
absolument,
savez.
Absolument, c'est vrai.
Non, mais c'est important de le dire, parce que c'est bien le problème.
C'est bien le problème, on est tout à fait d'accord. D'autant qu'ils étaient nés le même jour et la même année.
Exactement.
Donc c'était plus qu'une histoire d'amour, c'était totalement fusionnel.
La fusion.
Et pour le rappeler, puisqu'on parlait de Paris, c'est celui qui a emballé le Pont-Neuf. Et, voilà.
Et qui va emballer l'Arc de Triomphe, puisque le projet va se faire, même si Christo est mort il y a quelques
juste
semaines.
Là, juste à quelques jours de l'inauguration, du vernissage de son exposition à Beaubourg.
Et voilà. Vous savez qu'ils prenaient jamais l'avion ensemble, tous les deux.
Ah ouais, ça je savais pas.
Ah, j'allais coller, je suis contente. On va marquer une nouvelle pause, Jonathan Lambert, après quoi il faudra être courageux parce qu'on va se dire au revoir.
Après quoi, préquel, justement.
Ah oui, après quoi, préquel. Moi, depuis que je connais le mot préquel, ma vie va changer.
À toutes les sauces.
À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Pascal Clark.
Jonathan Lambert sera ce soir dans le
préquel
de France 2 qui s'appelle J'ai 10 ans. Voilà.
Préquel de Fête des Gosses. Donc,
ouais, préquel de Fête des Gosses qui a été diffusé quoi, en janvier-février
sur France 2. Ouais.
Petite déception qu'il n'y ait pas de saison 2 ou cela vit en...
Bah, ce qu'il y a d'étonnant surtout, c'est que ça a plutôt marché. Donc, Donc je ne m'explique pas ce genre de... Voilà. Mais bon, ça ne m'appartient pas. Moi, je ne suis pas dans la stratégie.
Je reviens pour terminer peut-être sur Rodolphe parce qu'il me...
Ah, ça vous turlupine.
Ouais, ça me turlupine, Rodolphe.
Mais c'est bien, ça veut dire que le nom déjà est en tous les cas empreint de curiosité.
Et sur... Alors, Rodolphe, déjà, pour jouer Rodolphe, vous serez habillé comment, normal ?
Alors... Ça, c'est... Non, mais c'est pas inintéressant, parce que je fais une entrée dans la robe de chambre qui appartenait à mon père. Voilà.
Mais la vraie ?
Ouais. Alors, j'ai fait raccourcir les manches parce qu'il était plus grand que moi. Mais ouais, je porte une partie de ses costumes. Sa cravate, et, enfin, sa cravate, l'une de ses cravates, et sa robe de chambre.
Et vous ne craignez pas d'être un peu submergé par l'émotion, non ?
Non, alors honnêtement, c'est ce que j'ai imaginé. Et en fait, il y a un moment donné où quand on écrit, on le conçoit comme un spectacle. Et je veux pas être égoïste et me faire plaisir en me disant c'est une sorte de voilà, j'avais besoin de parler. Non, je veux que ça reste avant tout un moment évidemment à partager, mais je veux faire rire les gens. Donc c'est mon obligation, c'est le contrat moral qu'on a avec un public. On peut parler de soi, d'accord, mais faut pas que ce soit égoïste et faut faire plaisir à ceux qui viennent vous voir, tout en se faisant plaisir bien sûr.
Auprès de qui, enfin, vous avez des oreilles dans votre entourage, auprès de qui testez-vous vos textes, votre écriture ? Parce que c'est, surtout quand l'ambition est de faire rire, on écrit un peu à blanc, non ?
Ouais, c'est très très délicat, mais c'est aussi ce qu'il y a de génial dans le seul en scène, c'est qu'on peut chaque soir, en sortant de scène, barrer, rajouter, raturer, voilà.
Et mais ça, c'est vrai pour les... Pour ce qu'on appelle les vannes, les...
Ah oui, l'essentiel du spectacle, si au premier soir je me retrouve face à un mur dormant, ça risque d'être compromettant pour la suite. Mais non, je sais pas, au bout du quatrième spectacle, peut-être aussi qu'on a des repères, qu'on sait un peu plus ce qui marche, qu'on a plus confiance en soi aussi. C'est vachement important, la confiance en soi sur scène, parce que c'est une façon de vendre, entre guillemets, même si le terme est pas très joli, mais de vendre un texte et de vendre des choses. Et pour répondre à la question, oui, j'ai lu le spectacle à ma femme dans un premier temps, puisque j'en parle aussi.
Vous l'avez lu ou vous l'avez joué ?
Non, je l'ai lu. Ouais. Non, pour le jouer, il faut vraiment être sur un plateau et avoir du monde en face pour vraiment incarner les choses. Et voilà.
Et elle a été féroce parce que vous lui avez demandé d'être féroce.
Elle a toujours été... vous savez, ça se lit. Les expressions sur un visage, voilà, on ne peut pas trahir ça. Les mots, tout se lit dans le regard, très très vite.
La scène est irremplaçable, j'imagine. C'est quoi, jouer chaque soir, remettre son titre, avoir le trac, tout ça ?
Ouais, mais au-delà de ça, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'est faire de la télé, du cinéma, du théâtre, du seul en scène, de la radio, on en parlait, écrire aussi. Et c'est l'idée de passer de l'un à l'autre, c'est d'abord une façon de s'enrichir, de se remettre aussi en cause. Et puis ça apporte, on ne s'ennuie jamais finalement. Voilà. L'idée de passer d'une pièce de théâtre à un seul en scène, il porte bien son nom. Hein. Il y a des moments donnés, on est très très seul, parce que quand ça marche, on ne partage pas vraiment, et quand ça ne marche pas, on est très triste d'être tout seul.
Donc Rodolphe est censé démarrer, vous m'avez dit, le
1er septembre à Nantes, puis après ce sera Toulouse, Lyon, Troyes et Paris.
Quelle salle à Paris ?
À l'Européen.
À l'Européen.
À partir du 5 novembre.
Voilà. Rodolphe, peut-être bientôt sur les planches, je vous le souhaite. Parce que,
hein, pas peut-être, sûr.
Sûr de chez sûr. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan Lambert, d'être passé par
Culture. Et puis à ce soir sur France 2, donc.
À ce soir sur France 2 pour le...
Préquel.
Exactement.
La fête des gosses.
C'est l'heure de première page avant les diamants. Voilà, c'est le titre du livre dont je vais lire à l'instant la première page. C'est signé Dominique Maison et ce livre sortira fin août à la Martinière, avant les diamants. Chaque dollar sorti de sa poche doit lui procurer un rapport satisfaisant. Moffat a peu de principes, mais celui-là, il y tient. Regarder une employée assise devant la caravane du réalisateur, tenant nonchalamment une cigarette du bout des doigts, dans une pose libre et moderne à la Lorraine Bacall, n'est pas ce qu'il considère comme un retour sur investissement acceptable. Le producteur se racle la gorge pour signaler sa présence. Après 4 heures de route monotone de Culver City à Lundpine, il est encore trop engourdi pour exprimer sa colère de façon plus saillante. L'assistante de plateau lève le nez du dernier confidential, puis reste figée, lapin pris dans les phares. Sur ses genoux, le magazine est ouvert sur un article détaillant les fêtes communistes homosexuelles de Hollywood. Larkin reconnaît Sterling Hayden, accompagné de Starlet, sur une photo prise au Sea Rose un soir de première. L'acteur est une des cibles privilégiées du tabloïd depuis son témoignage polémique devant la commission McCarthy. Moffat attrape le magazine, survole l'habituel ramassis de ragots délicieusement racoleurs, puis le glisse dans la poche de son costume. Ce salopard d'un télo bolchevique ne l'a pas volé, commande-t-il avec une grimace de dégoût. Avant les diamants de Dominique Maison qui sortira à la Martinière fin août. Culture Média, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain avec Pierre Palmade. Nous serons aussi en ligne avec la Belgique. Voilà. Voilà le menu, en gros. Hein. Rendez-vous à 9h demain sur Europe 1. À suivre Anne Roumanoff, le best-of. Je ne vous embrasse pas, à demain.